Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Fidèles auditeurs de Canal Académie, bonjour, merci d'être à notre écoute pour ce nouveau numéro d'éclairage. Dans le cadre de l'émission Un jour dans l'histoire, il y a 4 ans de cela déjà, je recevais à ce micro Hélène Carrère-Dancos pour évoquer l'histoire de l'Empire russe de 1552 à nos jours. Nous le savons, depuis le regretté Jean-Baptiste Durosel, tout empire est condamné à périr. Or, l'Empire russe constitue une exception à cette règle. À cheval entre l'Occident et l'Orient, nous devrions même différencier l'Orient du Moyen-Orient, composé de peuples différents, de nationalités distinctes les unes des autres et de courants religieux divers. Cet empire est bien eurasiatique avec de multiples composantes, ce qui en fait un objet d'étude complexe mais non moins passionnant. Mais comme le disait Bainville, que je connais bien, à la veille de la Révolution de 17, après quelques mois passés en Russie, qui pourrait se flatter d'embrasser d'un coup d'œil cet immense empire ? Nous, occidentaux, avons une perception de la Russie, mais cette perception est à la réalité russe ce que le romantisme est à l'histoire. Notre vision est le plus souvent biaisée par des raccourcis journalistiques, par des considérations idéologiques, par notre incapacité tout simplement à se resituer dans un contexte. Notre seul but ici est de comprendre les faits et les motivations des hommes et tout particulièrement des gouvernants. En 1991, l'Empire soviétique et le système communiste étaient liquidés. Dès lors, le pays fut confronté à de multiples problèmes, tant à l'intérieur de ses frontières qu'à l'extérieur. Quels furent les grands défis de la Russie des années 90 et 2000 ? Quelles ont été les orientations de la pensée géopolitique des dirigeants russes ? Peut-on parler d'un tropisme occidental ou au contraire asiatique ? Des questions que nous allons aborder avec Hélène Carrère-Dancos. Hélène Carrère-Dancos, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu encore une fois à notre invitation. Vous êtes secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Je vous ai invité à de nombreuses reprises à ce micro pour parler d'histoire. Mais c'est la première émission éclairage que nous faisons ensemble, éclairage étant porté sur l'actualité. Et effectivement, vous venez de publier chez Fayard « La Russie entre deux mondes ». Et c'est un ouvrage qui s'inscrit à la fois dans un passé récent, les années 90, à nos jours, dans le présent donc, mais aussi dans l'avenir. C'est un nouvel exercice pour vous ?
Ça n'est pas tout à fait un nouvel exercice. Je m'étais livré à cet exercice il y a près de 30 ans avec l'Empire éclaté, qui était assez proche. Je veux dire que c'était un peu autre chose, mais c'était assez voisin. Non, mais simplement, je reviens à quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. En fait, j'ai étudié le système soviétique pendant des années. Quand il a disparu, il m'est apparu qu'il y a une autre discipline. Étudier la Russie d'aujourd'hui, la Russie post-soviétique, qui est une sorte d'animal nouveau, totalement inconnu, supposait un lavage de cerveau, pour employer un terme qui, après tout, va très bien avec le système soviétique. Et c'est pour ça que je me suis penchée sur l'histoire. J'ai consacré plusieurs années à retourner dans le passé russe, justement pour oublier tout ce que je savais sur l'Union soviétique et, d'une certaine façon, faire un pont avec le passé russe et repartir de là pour prendre le présent. Et bon, j'ai attendu, pratiquement, je me suis donné 10 ans pour cet exercice. Je l'ai fait et après, je me suis mise à essayer de comprendre où en était la Russie. On me dit, et je vois partout, on accuse des responsables russes d'être des impérialistes, d'avoir un comportement impérialiste, de vouloir reconstituer l'Empire. J'avais d'une certaine façon quitté l'Union soviétique sur l'Empire éclaté, sur l'Empire qui allait mourir. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'ils veulent ? Vraiment c'est une vision impériale ?
C'est une forme de bilan, 20 ans après ?
C'est très important, c'est en tout cas une coupure.
Oui.
20 ans après, c'est... En fait, si vous voulez, depuis la fin de l'Union soviétique, 20 ans se sont écoulés maintenant. L'Union soviétique est morte en 90. Mais en même temps, l'Union soviétique a commencé à mourir en 1985-86 avec Tchernobyl. Donc on peut dire qu'un quart de siècle, ça permet de commencer à faire un bilan. C'est-à-dire, on est dans l'histoire, on est dans le présent, parce que c'est l'histoire déjà d'un État qui naît après l'Union soviétique et qui se cherche. On est dans le présent, et vous avez raison, la question qui se pose, c'est où va cet État ? Il y a peu d'États dans le monde qui ont une histoire aussi brève et aussi longue. C'est-à-dire que ça repose sur un très long passé, mais en même temps, la Russie, c'est un pays qui est né en décembre 1991, tel qu'elle est.
Alors, c'est ce qui ressort, j'allais dire, en premier de votre ouvrage. On parle beaucoup de l'identité nationale en France, etc. Or, votre ouvrage est une réflexion sur l'identité russe.
Exactement, parce que c'est le problème qui torture les Russes. C'est le problème qui torture les dirigeants russes, c'est le problème qui torture la société, on le voit très bien. Ouvrez un journal russe, car on croit qu'il n'existe pas de presse russe, il existe une presse extrêmement intéressante. Et qu'est-ce que vous voyez? Des articles les uns sur les autres. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que c'est que notre identité? Est-ce que nous sommes des Européens? Ne sommes-nous pas des Européens? Sommes-nous des Asiatiques? C'est un débat permanent qui s'est ouvert en 1992 et qui continue véritablement à ravager les consciences. Et il y a une raison à ça, si vous voulez. L'histoire de la Russie a été extraordinairement chaotique. Elle est lointaine, elle a plus d'un millénaire, la Russie chrétienne, et en même temps, c'est un pays dont l'histoire a été coupée par des invasions, qui a été coupée pendant 75 ans par le régime soviétique, où il n'y avait pas de Russie. La Russie, c'était le pilier de l'Union soviétique, c'était le peuple phare. Et aujourd'hui, il est normal que la question de l'identité se pose, d'autant plus que les Russes sont les héritiers d'un grand empire, un empire qui a commencé au XVIe siècle. Quand cet empire a cessé d'exister et quand la Russie est réapparue en 1991, elle était coupée de son passé historique, car elle est née à Kiev. Kiev, ce n'est pas en Russie. Elle était coupée de tout ce qui avait été l'ambition de tous les souverains russes, l'accès à la mer Baltique, l'accès à la mer Noire. Tout ça avait disparu. Comment voulez-vous que le problème identitaire ne se pose pas quand un peuple ne se reconnaît pas? En plus, tout de même, un cinquième du territoire avait disparu. 100 millions d'habitants avaient disparu, puisque c'est ceux à qui on a donné la liberté. Un pays qui passe de 240 millions d'habitants à 140 millions, il a du mal à se dire qui sommes-nous par rapport à ceux qui sont partis. Car le problème qui se pose, c'est qui sommes-nous, mais qui sommes-nous par rapport à ceux qui ont fait une vie commune avec nous. C'est tout le problème, je dirais, de ce qui s'appelle l'étranger proche ou de la zone d'influence russe. Comment doivent s'établir nos rapports avec certains peuples, avec l'Ukraine, il y a 4 siècles de vie commune? Comment est-ce qu'on se sépare? Alors, un empire qui s'y disloque, comme l'Empire français, l'Empire britannique, mais dont les composantes se trouvaient de l'autre côté des mers, ça n'a pas beaucoup d'importance. D'une certaine façon, c'est pas la même vie. Mais là, c'est un empire qui était d'un seul tenant. Ces peuples ont vécu sur le même sol et tout d'un coup, tout simplement, il y a une frontière qui les sépare. Alors, la vie commune, ça conduit, la vie commune arrêtée, ça conduit à s'interroger sur soi et sur le voisin. Et à savoir dans quel rapport on vit désormais.
Alors, dans la Russie d'aujourd'hui étant un supplément de Figaro, on pouvait lire notamment une interview du président Medvedev, en tous les cas un extrait de l'interview, et le rôle de l'histoire a bien évidemment, l'histoire a toute sa place dans cette recherche identitaire.
Énorme. Je voudrais vous dire quelque chose qui est très important, c'est que les Russes n'ont pas tout à fait le même... Ils ont une mémoire plus longue que la mémoire, par exemple, des Français. D'une certaine façon, la mémoire historique...
Ils sont meilleurs aux échecs.
Ils sont meilleurs aux échecs. Ils sont calculateurs et ils ont beaucoup plus le souvenir de tout ce qui s'est fait et la prévision de ce qui va se faire. Mais je dirais que la notion du temps est différente pour les Russes. Ça a l'air comme ça d'un propos de bistrot, hein, mais alors, ce n'est pas le café du commerce. Il y a une vérité que la mémoire des faits, la mémoire des lieux, la mémoire des rapports est beaucoup plus longue en Russie que dans les sociétés occidentales. Bon, ça tient probablement à... On ne peut pas tout mettre ni sur le climat ni sur les difficultés historiques, mais c'est vrai que les Russes, ayant été empêtrés dans des difficultés historiques, ils ont eu une période tout de même de 3 siècles supprimée par les invasions entre le 12e et le 15e. Ils ont eu ces 75 ans de coupure à cause du régime soviétique, c'est-à-dire qu'ils sont obligés, s'ils veulent se retrouver, de regarder dans un temps très long. C'est un exercice auquel peu de peuples sont obligés de se livrer.
Est-ce que c'est peut-être simplement un mot d'actualité en dehors de votre ouvrage, puisque vous ne l'évoquez pas, mais est-ce que c'est ce qui fait l'importance du geste de Medvedev et de Poutine à Katyn?
Alors vous savez que dans mon ouvrage, j'évoque le projet de Poutine. Je l'évoque parce que je n'ai pas fait un ouvrage collé à l'actualité, ce n'est pas un travail journalistique. Mais en même temps, j'ai suivi tout cet hiver la préparation de cet événement, alors qu'on n'en parlait pas. Quoi. J'ai compris très tôt, avant la catastrophe qui a anéanti une partie de la direction polonaise, j'ai compris très tôt que c'est Poutine, alors Poutine le premier, c'est Poutine qui a engagé avec le premier ministre polonais une négociation pour qu'il se retrouve à Katyn. Et il y a eu cette célébration. Et puis là-dessus arrive la catastrophe aérienne. Et le président Medvedev est allé, et je dirais que les Russes ont manifesté une solidarité avec les Polonais extraordinaire. Alors, mon ouvrage s'arrête avant parce que je ne pouvais pas courir derrière les événements, mais je dirais que ce qu'il complète, et ce sur quoi, au fond, je sentais qu'il fallait ouvrir, c'est tout de même sur une recomposition générale du paysage géopolitique. Alors, il y a une recomposition qui fait glisser le monde vers l'Asie, ça c'est incontestable, c'est ce qu'Obama a compris, et c'est ce que nous ne comprenons pas assez en France. Mais il y a un second fait que nous n'avons pas vu venir et qui est en train de se dessiner, c'est l'émergence d'un ensemble slave aux confins de l'Europe, avec un pays qui appartient à l'Europe, la réconciliation russo-polonaise et la réconciliation russo-ukrainienne qui se dessinent. Et cet ensemble slave, c'est un problème considérable, je dirais, c'est extraordinairement important. C'est un des effets de la politique qu'a suivi Vladimir Poutine et que Medvedev accompagne. Et une des raisons, et je l'ai toujours pensé, une des raisons pourquoi la Russie a été si dure avec la Géorgie, c'est parce qu'il lui fallait tout de même prévenir l'Ukraine qu'on ne pouvait pas continuer à jouer comme ça, qu'il fallait un rapprochement avec l'Ukraine. Il n'était pas question ni d'envahir l'Ukraine, ni de mal se comporter avec l'Ukraine. Mais je dirais que la guerre russo-géorgienne était destinée à apprendre aux anciens partenaires de la Russie, de l'Empire russe, qu'il fallait se rapprocher, qu'il fallait reconstituer quelque chose. Et on voit aujourd'hui cela se dessiner, c'est tout à fait clair.
Alors nous reviendrons évidemment sur ces conceptions géopolitiques et notamment sur le conflit avec la Géorgie. Je vais tout simplement reprendre la chronologie, nous sommes en 91. Vous présentez Eltsine comme un personnage en quelque sorte de transition, on parle des papes de transition. Eltsine apparaît comme un personnage qui freine une décomposition au début des années 90 et vraiment comme un homme de transition, alors que Poutine, qu'il va pousser, nous allons le voir comment, lui apparaît plus comme un homme d'action qui veut agir à la fois sur le présent et sur le futur.
Alors je dirais un peu les choses autrement si vous me le permettez.
Je vous en prie.
Vous êtes un bon lecteur, mais je voudrais préciser. Je dirais que Eltsine est un personnage dont je pense que l'examen doit commencer, d'une façon générale. C'est-à-dire qu'avec lequel on a été très injuste, qu'on a présenté comme un alcoolique ridicule. Bon, c'est un personnage qui a eu tout de même un mérite extraordinaire, c'est qu'il a eu le courage de regarder ce qui se passait dans son pays et de mettre fin à l'Empire. L'Empire était en décomposition, la situation n'était pas tenable, même si le monde extérieur pensait que ça pouvait durer. Et il a eu le courage de dire « c'est fini, chacun s'en va ». Et vous savez que ça a été très dur pour lui. Moi, il me l'avait confié un jour, il m'avait dit « je suis un Russe ». Pour moi, c'est terrible l'idée de mettre fin à l'Empire. Mais je sais qu'il faut le faire. Et il l'a fait, et son autobiographie permet de le comprendre. Au fond, c'était un pragmatique qui a avancé pas à pas. Donc, si vous voulez, là, ce n'est pas un homme de transition, c'est l'homme de l'immense rupture impériale. Et puis alors après, il s'est trouvé à décomposer un empire de cette importance, c'est-à-dire une fois encore abandonné plus du cinquième du territoire. Abandonner tout ce qui a constitué les fleurons de l'Empire et abandonner 100 millions d'habitants, c'est extraordinairement difficile. Je dirais pour les Russes, c'est insupportable parce que l'homme de la rue, pour lui, son pays, c'était ce grand empire. C'est pas l'État réduit, malgré tout, pas mal, et presque de moitié de population. Alors, à partir de là, le pays s'est trouvé dans une difficulté extrême, dans un chaos. Et je l'ai dit assez brutalement, on peut dire que le monde occidental n'a pas aidé la Russie. La Russie n'a pas du tout été récompensée, on peut le dire, de ce qu'elle avait fait. Parce que mettre fin à un empire de son plein gré, après tout, c'est un geste considérable. Bon, on l'a laissé se débrouiller, on l'a regardé avec curiosité. Et c'est un pays qui a failli se décomposer. Ce n'est pas la faute de Boris Eltsine. L'obsession de Boris Eltsine, et il l'avait parfaitement compris, c'était de ne pas retomber dans le communisme. Il savait tout de même qu'après 75 ans de communisme, les esprits avaient été façonnés par le système, qu'on risquait tout à fait une contre-révolution communiste. Et par conséquent, son obsession a été de couper tout ce qui pouvait rattacher au système communiste, c'est-à-dire de tout privatiser, tout ce qui pouvait permettre au système communiste de reprendre les commandes. Mais ça a abouti à une catastrophe économique, ça a abouti à l'appauvrissement de la société. Je veux dire, c'est un choix politique dont les conséquences économiques ont été considérables. Les conséquences morales, la société a été perdue, véritablement. La société n'est pas faite que d'intellectuels, elle est faite de gens simples, pour qui cette situation était incompréhensible et était une tragédie de chaque jour. Et c'est vrai que le pays a été souvent près de sombrer dans le chaos, là-dessus des crises financières qui l'ont atteint extrêmement durement, dont la crise asiatique de 1998. Et on pouvait penser à la fin des années 90 que le pays ne s'en sortirait pas, qu'une sorte de chaos emporterait le tout. Et c'est là qu'Eltsine a été, je dirais, au debout, l'homme de l'invention, l'invention de la fin de l'Empire et l'invention de la succession organisée. Et ça aussi, c'était un geste fabuleux. Je crois qu'il ne faut pas... On le sous-estime, on dit « Oh, c'est facile, il s'est choisi un successeur ». Non, ce n'est pas facile. Renoncer au pouvoir dans un pays où renoncer au pouvoir, c'est la mort, mais c'est fantastique. Et renoncer au pouvoir dans un pouvoir qui était friable, on ne savait pas ce qui allait se passer. Il a cherché un successeur systématiquement, un successeur de la jeune génération. C'était une obsession chez lui. Il en a essayé plusieurs, ça n'a pas marché. Il est enfin tombé sur un garçon qui s'appelait Poutine, qui lui a semblé avoir de la volonté. Et un beau matin, il a annoncé au pays médusé, et le monde occidental n'y a vu que du feu, ne s'est pas intéressé à ça, il a dit « je m'en vais ». Où est-ce qu'on voit que les gens s'en aillent quand leur mandat n'est pas terminé ? quand ça peut présenter des tas d'inconvénients dans un pays où une tradition d'assassinat littéralement de celui qui s'en va.
Alors, il y a une chose très importante, c'est une lapalissade. La chute du mur de Berlin et la chute du communisme mettent fin à un monde, à une vision idéologique des choses. On retourne dans un monde multipolaire. Or, et vous le montrez très bien, Eltsine est bien évidemment confronté. Alors, il est partagé entre un tropisme occidental d'un côté et cette émergence des relations internationales multipolaires qui l'amène à reconsidérer sa vision internationale.
Oui, alors je voudrais vous dire quelque chose qu'Eltsine disait et qu'il a mis dans ses mémoires. Il a toujours dit, c'était tout de même un homme qui avait pas loin de 70 ans, il a dit « j'ai été fabriqué par ce système et je ne sais faire que ce système m'a appris ». Donc, si vous voulez, il a fallu, le monde des relations internationales, ce n'était pas le monde de l'Union soviétique, c'était un monde avec lequel l'Union soviétique ne savait pas travailler, elle travaillait à sa manière. Il a véritablement opéré une rupture dans la vision qui était la sienne, celle qui lui avait été enseignée. Et ça a été très compliqué parce que, d'un côté, il a eu le sentiment qu'ayant abandonné l'Empire, il accomplissait le geste majeur qui permettait d'incorporer la Russie à la communauté internationale. Il s'est aperçu que la communauté internationale n'en voulait pas, au fond, qu'elle regardait cette Russie comme un animal bizarre. Et la Russie restait de côté. Donc il a fallu qu'il invente quelque chose avec en même temps, si vous voulez, la certitude que la Russie était européenne. Il a dit, je suis prêt à rentrer en Europe, moi, si on veut bien. Bon, mais personne ne l'a voulu. En même temps, il y avait un problème qui se posait pour lui. Comment organiser les rapports avec les autres? Et il n'a pas trouvé, au fond, d'interlocuteur. Alors, il a inventé la communauté des États indépendants, c'est-à-dire un système post-impérial qui n'avait pas de base, parce que c'est très difficile. Encore que, si vous voulez, après tout, le Commonwealth est né de la fin de l'Empire britannique. Après la décolonisation, nous avons eu un temps l'Union française, enfin des formules de... Et il y a eu ce qu'on pourrait appeler la France-Afrique. Il avait des modèles qu'il a regardés, c'est-à-dire il s'est dit les autres ont bien su faire une espèce de communauté. Mais il s'est heurté au problème qui n'existe pas ailleurs, c'est-à-dire que comme les anciennes possessions étaient ses voisins territoriaux, ces anciennes possessions se sont dit c'est très dangereux, on est à côté, donc il faut aller se réfugier quelque part. La géographie, la géopolitique a joué un rôle considérable dans les difficultés que la Russie a rencontrées avec les peuples qu'elle émancipait. Si vous émancipez des peuples qui sont loin de vous, ils se sentent libres. Si vous émancipez les voisins, ils ont toujours l'impression que la Russie va continuer à les manipuler. Du même coup, ces peuples ont cherché un parapluie et là, Eltsine se heurtait à quelque chose qui a été pour lui inattendu. La Russie avait été une très grande puissance. Il a pensé qu'elle pourrait continuer à dialoguer avec ce qui lui paraissait être le pays comparable, c'est-à-dire les États-Unis. Il n'a pas pu dialoguer. Parce que pour les États-Unis, à partir de ce moment-là, et c'est logique, ça c'est la vie internationale telle que Durosel nous l'a appris à tous, la vie internationale, c'est que quand on est le plus puissant, eh bien on veut être le seul puissant. Et la Russie savait bien qu'elle n'était pas l'autre super grand. Mais elle entendait être traitée en puissance, or elle a été traitée avec un mépris considérable. Et pour Eltsine, ça a été un problème considérable, avec des moments particulièrement marqués. Par exemple, les bombardements de Yougoslavie qui ont été décidés, les bombardements de la Serbie qui ont été décidés sans la Russie, sans le Conseil de sécurité. C'est-à-dire que la Russie, qui ne conservait qu'un seul élément de son statut de puissance, c'est membre permanent du Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité n'était pas convoqué précisément pour éviter qu'elle puisse parler. Donc elle était niée. Et c'est là qu'Eltsine a dû trouver, je dirais, un moyen de naviguer. Et c'est pour ça aussi qu'il a choisi un homme, il l'a dit. Je cherchais un homme avec un tempérament de fer, parce qu'il a bien pensé que dans ce monde dur, il fallait un homme au tempérament de fer et pas un démocrate très tendre.
Vous avez une expression, vous dites « La Russie persiste à se chercher des amis dans la vie internationale et n'y rencontre que des interlocuteurs ». Donc, quel rôle va jouer précisément Vladimir Poutine dans ce jeu géopolitique? Car il s'agit d'un livre de géopolitique, Hélène Carrère-Dancausse, c'est ce que nous allons voir dans un instant.
Il se situe à côté de Bordeaux, le château de la Brède est le lieu où vécut Montesquieu. Retrouvez avec Olivia Battistello la magie d'un lieu d'exception ainsi que la vie du philosophe et académicien dans l'émission La demeure de Montesquieu. Sans plus attendre, canalacademy.com vous ouvre les portes de la philosophie.
Nous Nous entamons la deuxième partie de cette émission. Je reçois à ce micro Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française et auteure du livre « La Russie entre deux mondes » qui vient d'être publié chez Fayard, donc un ouvrage sur cette Russie des années 90 et des années 2000, un ouvrage de géopolitique. Nous avons évoqué, Hélène Carrère-Dancos, ce personnage que vous réhabilitez, Eltsine, et au fond, cette réhabilitation est presque, je ne vais pas dire évidente, mais vous le dites dès le début de votre ouvrage, il y a un malentendu entre l'Occident et la Russie. Nous avons du mal à cerner cette Russie, et vous la réhabilitez à travers cet ouvrage.
Il y a quelque chose que j'ai voulu montrer, c'est que pour l'Occident, la fin du XXe siècle, du terrible XXe siècle, la fin du communisme, c'est le mur de Berlin, c'est Solidarność, etc. Mais la fin, véritablement, c'est le jour où l'Union soviétique, qui a été le porteur de ce monde, a cessé d'exister. Et elle a cessé d'exister par la volonté des siens. Parce que le système aurait continué à exister, les choses ne se seraient pas passées comme ça.
Alors, Vladimir Poutine est nommé, en quelque sorte, alors il y a un tour de passe-passe politique extraordinaire d'Eltsine que vous pourriez nous raconter.
Alors, Eltsine a eu d'abord, ce qui a été très intéressant, il avait tout de même essayé plusieurs premiers ministres. Et il a essayé plusieurs jeunes, chaque fois ça a raté. Puis il a trouvé que Poutine faisait l'affaire. Et je voudrais dire tout de suite que Poutine, il l'avait récupéré non pas n'importe où, mais chez Sobchak, l'ancien maire de Saint-Pétersbourg, qui était, je dirais, le plus grand démocrate de toute la Russie. Celui qui aurait pu être le premier président démocrate de la Russie, mais qui est mort et qui d'abord était, je dirais, trop occidental pour le pays dans son état en 1991. Donc Poutine était tout de même le disciple d'un homme dont la réputation démocratique était de premier ordre. Ça, c'est, il faut le savoir. C'était pas, on dit nous, le kagébiste. Pour Sobchak, dont la réputation démocratique est absolument intacte, c'était pas un kagébiste, c'était un de ses collaborateurs qui a travaillé dans une instance qui s'appelait le KGB, tout simplement parce que c'était la seule instance qui tenait le coup à la fin de l'Union soviétique dans le désordre général. Alors, il l'a choisi, véritablement, pour son tempérament, il le dit dans ses mémoires. Il l'a nommé Premier ministre. Comme il nommait Premier ministre, tous les hommes qu'il a essayés, tous les, je veux dire, quand on dit la succession qu'il a essayée, il avait encore plusieurs mois, son mandat courait sur plusieurs mois, et au fond, il n'a dit à personne qu'il partirait le 1er janvier. Le 1er janvier 2000, parce que c'était symbolique. Ça faisait pratiquement un peu plus de 1000 ans de l'histoire russe, c'était la fin d'un siècle terrible, en fait, tout cela était un symbole. Même Poutine ne savait pas jusqu'au dernier jour. Il savait qu'il était choisi comme successeur, mais d'autres successeurs avaient été testés et n'avaient pas réussi. Donc il restait plusieurs mois à courir, ça aurait pu rater. Et c'est là que Boris Eltsine, un beau jour, a annoncé au pays qui était médusé, il a dit « Je m'en vais, votre Premier ministre, la Constitution le dit, s'est appuyé sur la Constitution, c'est ça qui est formidable. » Parce qu'on peut dire « C'était des élections qui étaient un peu faiblardes, etc. » Mais il y a une Constitution et Eltsine a fait quelque chose d'extraordinaire. Il s'est appuyé sur la Constitution qui lui permettait de démissionner, de mettre en piste un successeur, d'organiser véritablement le calendrier électoral. Et c'est cela qu'il a fait. Il est parti dans ces conditions. Ce qui fait, c'est extrêmement important, qu'à partir de ce moment, le problème de la succession doit être réglé selon la Constitution. Et quand Vladimir Poutine, en 2008, s'est trouvé devant, je dirais, le choix ou bien de suivre l'opinion publique qui disait « vous n'avez droit qu'à deux mandats, mais on peut amender la Constitution et vous restez parce que l'opinion publique est très poutinienne », ou bien, et c'était très séduisant, ou bien de s'en aller, eh bien, il a choisi de s'en aller en disant « malgré tout, même si l'opinion publique est d'accord, moi je m'en vais parce qu'il faut respecter les institutions, il faut que le peuple y croit ». Et ça, je dirais que c'est la leçon d'Eltsine, c'est le grand service, le second grand service qu'il a rendu à son pays. Bon, donc il a organisé la succession et il a mis en place cet homme qui est arrivé dans une histoire épouvantable, parce qu'il est arrivé dans la guerre de Tchétchénie. Ce qui est, je dirais, son grand problème. Le sud du territoire russe est ravagé par la guerre de Tchétchénie. Quand Eltsine a donné l'indépendance à tout l'Empire, il a dit cette phrase extraordinaire, il a dit à tous les peuples, quelle que soit leur dimension, quel que soit leur statut, il a dit « prenez autant d'indépendance que vous pouvez en digérer, ou que vous pouvez en avaler ». On peut traduire ça comme on veut. Alors, la plupart se sont organisés. Cette indépendance, elle n'était accordée qu'au peuple qui était organisé en république souveraine, c'est-à-dire les Géorgiens, les Arméniens, les Ukrainiens, etc., mais pas au peuple qui se trouvait à l'intérieur de la Russie et qui avait un statut d'autonomie. Les Tchétchènes, au Caucase, qui sont un vieux peuple avec un vieux statut d'indépendance, avec une vieille volonté d'indépendance, c'est un peuple avec une tradition clanique, bah, ils ont décidé qu'eux aussi, ils étaient indépendants, bien qu'ils étaient à l'intérieur du territoire russe. Et ils sont en plus sur le trajet du passage du pétrole, c'est-à-dire qu'ils pouvaient très bien sortir un peu de pétrole pour leurs petites affaires. Enfin, il a régné là une atmosphère assez mafieuse. Ça fait aussi partie de cette vieille tradition clanique. C'est un peuple magnifique, mais enfin qui a ses propres traditions, qui n'ont jamais été complètement absorbées par la Russie. Et après tout, c'est le peuple qui a défié la Russie au XIXe siècle pendant un demi-siècle. Par conséquent, là, je vous parlais de la longue mémoire, et pour les Russes et pour les Tchétchènes, c'est une très longue histoire. Bon, ce peuple a vécu dans un état de quasi-indépendance. Eltsine a fermé les yeux. Mais ça a tourné au terrorisme, dans un climat de terrorisme se généralisant à la fin du XXe siècle. C'est à ce moment-là que Poutine arrive et c'est lui qui a eu, je dirais, à se confronter à la guerre tchétchène. Et évidemment, ça fait partie à la fois de sa mauvaise légende dans le monde occidental. Il est le tueur de Tchétchènes ou le boucher des Tchétchènes pour les Occidentaux. Ça fait partie d'une réputation positive pour les Russes, à l'exception d'une minorité libérale. Mais la minorité libérale est vraiment un minoritaire.
Il y a la question tchétchène, mais d'un autre côté, il y a chez Poutine le même réalisme que chez Boris Eltsine. Vous le dites, Poutine propose soudain l'image d'une Russie dont le retard est dramatique puisqu'il la compare aux États les moins avancés d'Europe.
Au Portugal.
Le Portugal devient un modèle pour la Russie. Et c'est là aussi ce qui ressort de votre ouvrage, c'est ce réalisme. Il y a un réalisme russe et une volonté politique. C'est très important parce que tout homme politique n'a pas forcément une volonté pour son pays. Là, il y a une volonté affirmée et une volonté reconnue, la volonté tout simplement de sortir de ce siècle quasiment de communisme.
Oui, absolument. Et d'en sortir sans que la Russie elle-même en soit affectée. Une des particularités de Poutine, c'est que c'est un homme qui est profondément patriote. Alors là, il est patriote au meilleur sens du terme. Hein. C'est un homme qui a une passion de son pays. Il est très croyant, il est orthodoxe. Et je veux dire que pour lui, il y a cette identification russe et orthodoxe. Toute l'histoire russe, c'est l'histoire de l'entrée dans la chrétienté orientale. Donc, si vous voulez, il y a la question de l'identité nationale est posée pour lui d'emblée. Mais en même temps, Poutine est un homme, c'est ce qui le rend intéressant, c'est un homme qui tout de même se sent tout à fait occidental, tout à fait européen. Et dès qu'il arrive au pouvoir, au fond, d'une certaine façon, il suit l'affaire tchétchène, ça il s'en occupe, c'est une autre affaire, une partie du programme. Mais son obsession, c'est de rendre à la Russie sa place dans le monde. Il ne faut pas oublier qu'il arrive sur la toile de fond du monde qui a ignoré la Russie. Dans la Serbie, c'était tout de même le grand allié de la Russie, le grand allié historique. Les bombardements de la Serbie, où la Russie a été totalement isolée et traitée comme quantité négligeable, ont beaucoup pesé sur l'amertume russe. Et Poutine a été conscient qu'il fallait, d'une certaine manière, redonner une certaine crédibilité à la Russie dans la vie politique. Cela dit, il a tâtonné. Il a commencé, exactement comme Eltsine, par chercher plutôt du côté, je dirais, par affirmer qu'il était européen, par affirmer qu'il était occidental. Il a cherché du côté des États-Unis et il a eu un coup de chance formidable, on pourrait le croire. C'est affreux de dire ça, mais l'attaque d'Al-Qaïda sur les États-Unis lui a permis de tendre la main aux États-Unis. Au fond, lui a permis de montrer que la Russie existait, qu'elle pouvait être, précisément parce que c'est un pays où il y a des musulmans, où se pose le problème du terrorisme, lui a permis de dire, il s'est précipité le premier pour manifester sa solidarité et pour proposer un combat commun. Et tout de suite, d'ailleurs, il a inscrit à ce moment-là la Tchétchénie dans le cadre de la lutte générale contre le terrorisme musulman extrémiste. Et on peut dire que c'est là, d'une certaine façon, l'origine de toute la politique ultérieure de durcissement de Poutine, parce qu'il y a une période bénie, pense-t-il, où la Russie retrouve sa place tout simplement parce qu'elle a quelque chose à faire aux côtés des États-Unis. Ça n'a pas conduit du tout à une satisfaction considérable. De même qu'en 1991, le monde n'a pas du tout applaudi à l'abandon de l'Empire, de la même façon, les États-Unis ont profité des circonstances puisque Poutine a fait quelque chose d'extraordinaire. Il leur a ouvert véritablement l'Asie centrale, il a tout ce qui était dans ce qu'on appelle l'étranger proche, c'est-à-dire dans, en gros, la zone d'influence russe. Il leur a ouvert les aéroports, il a arrêté des manœuvres militaires, il a tout fait pour que les États-Unis puissent profiter véritablement de l'aide russe. Les États-Unis en ont profité aimablement pour, je dirais, essayer de s'installer, de remplacer la Russie dans ce que les Russes ont espéré garder comme zone d'influence. Et c'est un jeu qui a duré pendant plus de 2 ans, et on peut dire que ça a conduit à la grande rupture de 2004.
2004 est l'année la plus importante dans votre ouvrage.
Absolument, je pense que c'est très important parce que, si vous voulez, la rupture s'est traduite, enfin, ou les raisons de la rupture sont traduites d'abord par le fait que les États-Unis ont un petit peu partout avancé, y compris dans leur stratégie d'encouragement à la construction de voies d'évacuation de l'énergie. en évitant la Russie ou en isolant la Russie. Bon, ça, c'est déjà un problème considérable pour la Russie, parce que si vous voulez, ça rappelait quelque chose aux Russes. Et je voudrais le dire, en 1941, quand Hitler a envahi la Russie, il avait un projet géopolitique. Le projet géopolitique, c'était de repousser la Russie vers ses parties agricoles et de la désindustrialiser et d'en faire une espèce de terre agricole au bénéfice de l'Allemagne. Oui. Bon, personne n'a pensé à ça en Occident, mais pour les Russes, c'est un cauchemar. C'est un grand pays industrialisé qui s'est assez désindustrialisé dans les années 90-2000, précisément en raison du chaos qui régnait. Et tout d'un coup, les États-Unis ont une stratégie qui consiste à les isoler de ce qui est là, je dirais, le monde moderne, c'est-à-dire la force énergétique. Bon, alors là-dessus, il y a eu en plus les révolutions de couleurs, que nous avons applaudies avec enthousiasme, la révolution des roses, la révolution orange, on a dit comme c'est magnifique. On ne s'est pas rendu compte que c'était tout simplement... On a dit d'ailleurs, c'est magnifique, pourquoi est-ce que les Russes ne font pas une révolution de couleurs? Les Russes sont devenus enragés. Ils ont dit, la révolution de couleurs, c'est nous qui l'avons fait en 1991. Qui est-ce qui a le premier fait une révolution anticommuniste? C'est nous, tout le reste. Bon, et c'est la vérité, c'était 91, c'était la révolution de couleurs. Mais ces révolutions de couleurs sont un défi, parce que ça a conduit à ce que les pays qui ont fait ces révolutions de couleurs se sont réfugiés sous le parapluie américain. Et l'idée a été développée d'étendre l'OTAN. Alors l'OTAN s'était déjà étendue à l'Europe de l'Est pour la Russie. L'OTAN a été conçue comme réponse à la puissance soviétique. L'Union soviétique a défait son système d'alliance, le pacte de Varsovie, à la fin, je dirais, sous Gorbatchev. L'OTAN subsiste et les Russes disent à quoi sert cette alliance qui était dirigée contre un pays qui était agressif. Et tout d'un coup, les pays que la Russie a libérés de son emprise, d'abord les pays de l'Europe de l'Est, se précipitent vers l'OTAN. Les Russes n'ont rien dit, ils n'étaient pas très contents, mais ils n'ont rien dit. Mais enfin, rentrent la Pologne, la Tchéquie, etc. Et puis, seconde étape au moment des révolutions de couleur, les Ukrainiens, les Géorgiens disent « Mais nous aussi, on veut aller dans l'OTAN ». Déjà, les Baltes y sont allés. Alors, pour la Russie, savoir qu'au fond, les frontières de l'OTAN, qui avaient été conçues comme un système d'alliance anti-soviétique, et que les nouveaux candidats tiennent comme un système défensif contre la Russie, que cette OTAN va s'étendre à leurs frontières, ça a été intolérable. Et c'est pour ça que 2004 est le moment de la rupture.
Hélène Carrère-Dancausse, nous nous retrouvons dans un instant. Nous entamons la dernière partie de cette émission. Je reçois Hélène Carrère-Dancausse, auteure du livre « La Russie entre deux mondes » paru chez Fayard. Nous avons laissé nos auditeurs, Hélène Carrère-Dancausse, à cette année 2004. Et cette année 2004, elle est importante. Vous nous avez expliqué pourquoi c'est aussi l'année qui correspond au début du deuxième mandat de Poutine. C'est l'adhésion à une vision multipolaire de la Russie.
Oui, si ce n'est que la Russie a sa propre vision. On considère qu'on joue avec le multipolaire. On a toujours dit le monde est multipolaire, principalement depuis la fin de l'Union soviétique. Mais quand les Russes regardent la notion occidentale de multipolaire, ils disent multipolaire, pour les Américains, ça veut dire il y a les États-Unis et puis les autres, ou ceux qui sont beaucoup d'analyses là-dessus. Et pour la Russie, ça a pris un autre sens, multipolaire. C'est le constat que le monde était en train de changer, que des pôles nouveaux naissaient, c'est pas simplement qu'on peut choisir, que des pôles nouveaux naissaient. Les Russes se sont aperçus tout de suite de l'importance de la montée de tout ce qui n'était ni européen ni américain, c'est-à-dire la Chine, l'ensemble des pays d'Asie, mais aussi les pays d'Amérique latine, ce qui va donner maintenant ce qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Une alliance un peu hétéroclite, mais en même temps c'est une alliance de pays qui représente une puissance humaine et un potentiel économique fabuleux. La Russie entrevoit ça dès 2004, elle se rend compte qu'après tout, elle a, elle, la capacité, il suffit de regarder une carte, elle a la capacité de se poser comme un pays multipolaire, ou un pays à destinée multipolaire, tout simplement, parce que c'est un pays qui est européen, mais qui est aussi en Asie, qui est même au Moyen-Orient, si on peut dire, parce qu'il touche aux frontières du Moyen-Orient, et qui par conséquent peut jouer à l'intérieur de tous ces pôles, et qui sont en train de devenir les pôles les plus importants du monde.
Est-ce que cet adjectif de multipolaire, au fond, ne correspond pas à la recherche d'un équilibre ? L'équilibre donc entre cet Occident, qui est un peu ingrat, vous l'avez expliqué avec les États-Unis, et cette Asie qui se développe fortement, et vous montrez notamment l'importance du groupe de Shanghai.
Absolument, mais le groupe de Shanghai, c'est justement l'importance. Je dirais qu'il y a eu presque deux moments. Déçu par l'Occident, la Russie se tourne vers ce monde qui monte, vers l'Asie. Et c'est renforcé par tout le débat sur l'identité russe, sur l'eurasisme, car il ne faut tout de même pas oublier le rôle de l'eurasisme. C'est une théorie qui, à la fois, paraît comique, et qui est en même temps une théorie qui s'était développée en 1920, que les émigrés russes avaient développé en Europe, à Paris principalement. Ils ont réfléchi, ils ont dit, après tout, nous ne sommes peut-être pas du tout des Européens, nous sommes des Eurasiens, nous avons une destinée particulière. Et l'eurasisme renaît très fortement en Russie. Alors ça ne veut pas dire que ça englobe des masses, mais ça veut dire qu'intellectuellement, c'est tout de même un système d'idées assez intéressant, qui fait de la Russie un pays qui n'est ni l'Europe ni l'Asie, mais une sorte de continent qui regarde de tous les côtés. Et justement, constatant le poids montant de l'Asie, il est clair qu'il y a eu en Russie une tentation asiatique très forte, presque une tentation à se... Et il y a encore une partie de l'opinion qui se sent eurasienne. Je dirais que l'opinion est très partagée en ce moment. Les Russes se sentent européens, mais en même temps, ceux qui sont en faveur de cette destinée particulière, de cette spécificité. Et il est clair que pendant au moins 4 ans, 2004-2008, c'est-à-dire le second mandat de Poutine, la force du groupe de Shanghai, qui est tout à fait extraordinaire, le groupe de Shanghai, c'est un groupe de pays qui sont tous des pays d'Asie, sauf la Russie. Et du coup, la Russie devient acquiert une légitimité asiatique. De la même façon, elle rentre dans des tas de combinaisons qui sont géopolitiques, comme l'organisation des pays musulmans. Partout, je dirais que c'est sa spécificité non-européenne qui est reconnue. Et là, elle est reconnue comme un allié tout à fait, je dirais comme un pays qui ne menace personne, contrairement au monde européen, aux États-Unis, qui la regardent toujours comme si c'était un pays inquiétant. Là, elle n'inquiète personne. Alors, c'est un jeu dangereux. Je dirais que c'est une situation qui a évolué.
C'est un jeu dangereux. Vous montrez un Poutine qui, Vladimir Poutine, dites-vous, va combiner habilement les diverses positions selon les lieux ou les moments. C'est cet équilibre dont je parlais tout à l'heure.
Oui, mais il est arrivé progressivement, si vous voulez. Il y a tout de même une tentation. La politique asiatique a eu un grand effet. C'est que le monde a regardé la Russie avec des yeux, le monde occidental, oui, avec des yeux étonnés, mais en reconnaissant tout de même que quelque chose se passait là. Et on peut dire maintenant, il suffit de regarder Obama. Obama qui considère que l'Europe n'a pas d'intérêt, que tout se joue en Asie, ben Obama a tout de suite tendu la main à la Russie. Enfin, il a eu de la Russie une vision beaucoup plus positive que ses prédécesseurs. Parce que précisément, ça va avec sa vision géopolitique, mais avec la vision d'une Russie qui se trouve là-bas et pas dans le monde occidental. Cela dit, je dirais qu'il y a une évolution qui s'opère tout doucement. On peut dire que Poutine s'est lancé dans cette politique qui lui apportait beaucoup de succès. Ça rendait la dignité à la Russie, ça lui redonnait une force. Mais en même temps, l'identité européenne est tout de même assez forte. Et progressivement, se rétablit quelque chose, c'est le sentiment que la Russie est un grand pays européen, mais qui est géographiquement capable d'être un pays d'Asie. Si vous voulez, il y a eu un petit glissement. Est-ce qu'on ne peut pas être vraiment un pays d'Asie ? Et puis, on revient à une vision plus équilibrée, mais parce que la Russie, maintenant, est en mesure aussi d'être un pays européen.
Est-ce, au fond, le début d'une prise de conscience d'un potentiel ?
Oui, vous avez raison. Et en même temps, les Russes ne sont pas encore très sûrs d'eux-mêmes. Ils savent ce qu'ils peuvent. Ils ont conscience de ce que, je dirais, cette vision multipolaire leur a rapporté. En même temps, précisément, ils essayent de revenir un petit peu à une certaine vocation européenne. Et ça, il ne faut pas oublier, le mandat de Vladimir Poutine s'est terminé en 2008. Le successeur qu'il a choisi, comme Eltsine l'avait choisi, bon, c'est un homme d'une autre génération. C'est un homme qui a 13 ans de moins que lui. Et en même temps, ça fait une demi-génération. Mais par le temps qui court, ça fait une génération d'éducation et de tout. Et Medvedev est certainement plus occidental d'une certaine façon que lui. Peut-être un tout petit peu moins russe et un peu plus obsédé, je dirais, par une vision plus mondialisée. Voilà, ça apparaît clairement. Et il y a un équilibre qui est en train de s'établir. Mais il reste que, bon, ce qui a permis à la Russie, au fond, maintenant, ce qui lui permet de choisir, c'est qu'un beau jour, elle a dit stop à l'état d'isolement où elle se trouvait, à cette obligation de se poser uniquement en pays asiatique. Elle a retrouvé sa dignité. Alors, je reconnais que ça choque. Mais c'est en fait, en faisant la guerre en Géorgie, que la Russie a marqué le point d'arrivée de toute cette évolution, de cette réintégration de statut de puissance, elle a montré qu'il y a des choses qu'elle ne supportait pas. Et le monde a dit, comme c'est le monde occidental a été très choqué, mais en définitive, on peut dire que bon, il est choqué, mais Russie a réintégré.
Alors précisément, en quelques mots, il y a des origines historiques au conflit en Géorgie.
Il y a des origines historiques. Il y a d'abord tout simplement que après l'indépendance en 1991, quand Eltsine a offert l'indépendance à tout le monde, eh bien, bon, la Géorgie est un vieux pays et un vieux pays aussi composite. Le premier président géorgien était un chauvin. Employant le mot de la pire espèce, le président Gamsa Kourdia, qui a dit « tout le monde est géorgien, l'État aux géorgiens, et il y a un grand peuple, qui est le peuple abkhaze, qui a tout à fait refusé. » Et l'Abkhazie, c'est quelque chose de magnifique. Enfin, c'est la partie la plus extraordinaire de la côte de la mer Noire. C'est un vrai peuple, et c'est un vrai pays. On peut dire que la Géorgie n'était plus unifiée depuis 1992. Et ça a donné un levier à la Russie, formidable. Il y a aussi l'Ossétie, mais je dirais que c'est l'Abkhazie le vrai levier. Ça lui a donné un levier pour essayer de convaincre les Géorgiens qu'il fallait s'intégrer, les Géorgiens n'ont pas voulu s'y intégrer, dans la communauté des États indépendants, mais tout de même dans une espèce de zone qui n'est pas farouchement anti-russe et surtout ne pas courir derrière l'OTAN.
L'étranger proche, ce que vous appelez.
C'est ce qu'ils appellent l'étranger proche et c'est un mot tout à fait extraordinaire parce que ça colle deux mots tout à fait différents. Un étranger n'est pas proche. C'est un concept de géopolitique qui est très intéressant et c'est le seul au fond qu'on puisse imaginer. Bon, la Géorgie a voulu jouer une carte indépendante. Et je dirais qu'il y a une question très intéressante qui se pose, c'est de savoir, le président géorgien, à l'issue de la révolution des Roses, qui est tout de même une révolution qui a été manipulée, comme la révolution orange, ce sont des révolutions qui ont été fabriquées par des ONG d'obédience américaine avec argent américain. C'était tout de même aux frontières de la Russie, un mouvement de déstabilisation de ses frontières. Mais le président géorgien a considéré qu'il était le grand homme de ces révolutions de couleur. Il s'est emballé, et on peut dire que la question est historique, c'est... Qu'est-ce qui se serait passé s'il ne s'était pas précipité dans une guerre? Parce qu'il aurait obligé les Russes, eux, à déclencher la guerre. Même s'ils se sont saisis d'un prétexte, c'est tout de même pas eux. Les responsabilités sont partagées. Et ça, ça a été une chance formidable pour la Russie. Mais on peut dire que maintenant, ça a été le point d'arrêt et la Russie est beaucoup plus. Les responsables russes sont tout à fait tranquilles sur eux-mêmes. Et il y a eu un accord, je dirais, très fort entre les deux chefs de la Russie, Poutine et Medvedev, sur cette opération géorgienne. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tout simplement sur le choix d'un endroit où dire stop. Et les Occidentaux ont fourni aux Russes un prétexte formidable, c'est la reconnaissance du Kosovo. Parce que quand on a reconnu le Kosovo, les Russes ont lancé et ont dit « si vous le faites, on peut reconnaître après les indépendances à l'intérieur de la Géorgie. Vous décomposez la Serbie, nous constaterons la décomposition de la Géorgie. » On peut dire que le monde était averti, personne n'a triché.
C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais il y a un paradoxe, parce que...
Il y a deux principes contradictoires.
Voilà, exactement. Et vous montrez d'ailleurs qu'après la guerre géorgienne, alors que la Russie montre un signe de puissance, au fond, elle reste isolée, parce que en agissant de la sorte et en soutenant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sur la question géorgienne, eh bien, elle peut soulever des feux
absolument.
Un peu
partout chez ses voisins. Elle fait peur à tous les voisins, parce que partout, il y a un problème qui se pose. Et la Russie, là, je dois dire, elle est obligée de jouer très subtilement entre ce qu'elle a affirmé en 1992, au moment des indépendances. Boris Eltsine a dit, ce qui va jouer, les frontières sont intangibles. Nous respectons l'intangibilité des frontières. Et là, Poutine a dit, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais la Russie n'est pas allée loin, c'est-à-dire qu'elle a reconnu l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie. Mais quand les Ossètes ont demandé, car les Ossètes ont dit, nous voulons rejoindre en Russie nos frères qui sont les Ossètes du Nord. Le président russe a dit, il n'en est pas question. Nous sommes... exceptionnellement, comme pour le Kosovo, nous avons reconnu le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais nous sommes pour l'intangibilité des frontières. Au fond, la Russie apaise ses voisins avec ça, et incontestablement, le calme règne. Et il y a une illustration à l'égard de l'Ukraine. La Russie aurait pu jouer, dans les moments les plus difficiles, avec la Crimée. La Crimée est peuplée de Russes, et c'est un territoire russe qui est tout à fait accidentellement dans les frontières ukrainiennes. Et il y a vraiment un mouvement pro-russe là-bas très fort. Jamais elle n'a joué à ce jeu-là. Au contraire, elle a calmé les aspirations des Russes de Crimée à rejoindre la Russie. Et elle a toujours dit aux Ukrainiens, vos frontières sont absolument intangibles. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, il est tout de même possible d'arriver à un minimum d'entente entre ces deux pays. Les Ukrainiens savent, ont compris que les Russes ne les menaceraient pas.
Mais au-delà de cette question géorgienne, est-ce que la Russie ne veut pas toucher au fond les États-Unis ?
Ah ben ça, c'était un message adressé aux États-Unis. C'était pas un message adressé à la Géorgie. Ça voulait dire stop à une politique qui a visé entièrement à repousser la Russie aussi loin que possible. C'était, je dirais, la version moderne du containment de 1945, de la volonté de contenir l'Union soviétique, donc on avait peur de voir déferler sur l'Europe. Là, la Russie s'est trouvée devant, c'était l'inverse, les États-Unis ont essayé de la repousser et de, tout de même de prendre sa place. Car l'installation de l'OTAN aux frontières de la Russie, en Géorgie, en Ukraine, si ça s'était fait, c'était tout de même l'influence américaine. Et pourquoi les Russes posent la question, ils disent pourquoi est-ce qu'une zone d'influence américaine c'est bien et pourquoi est-ce qu'une zone d'influence russe c'est pas bien? C'est une question assez logique. De toute façon, il y a des zones d'influence américaine et les Russes le disent, si on va s'installer au Mexique, qu'est-ce que diront les États-Unis? C'est la vérité. Non, ça a été, la guerre de Géorgie, ça a été le stop à tout ce qui mettait en cause la puissance russe ou tout ce qui mettait en cause le statut de la Russie dans le monde. Et au fond, la Russie n'a pu le faire qu'en 2008 parce qu'elle était assez forte. Avant, elle n'aurait pas pu.
Alors, on peut dire que et Poutine et Medvedev ont en quelque sorte redoré ce blason à partir de 2004 en s'opposant aux États-Unis dans le cadre d'une nouvelle guerre froide. On peut utiliser ce terme ?
Non, mais les Russes considèrent que les États-Unis, au fond, se sont installés dans une nouvelle guerre froide à leur égard. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé à les isoler, travaillé à les mettre en difficulté partout et surtout à occuper le terrain. Alors, il y a des manifestations, je dirais presque anecdotiques, de cette quasi-guerre froide en Kirghizie, c'est-à-dire un territoire qui est très agité, qui a été agité par une tentative révolutionnaire en 2004 et qui est agité encore maintenant. Les Russes ont autorisé les États-Unis en 2001 à installer une base, la base de Manas. Puis les Russes ont aussi une base. Voilà un territoire où il y a face à face une base russe et une base américaine. On voit bien que c'est tout de même une situation un peu héritée de la guerre froide, c'est-à-dire une lutte d'influence aux abords des grands pays.
Hélène Karanenkos, nous arrivons peu à peu au terme de cette émission. Il y a malgré tout un paradoxe parce que cette Russie qui se relève depuis 2004, qui a une volonté politique, eh bien, elle reste, et ce sont les derniers mots de votre conclusion, subsiste un doute sur l'identité, toujours une... La Russie reste inachevée.
Elle reste inachevée, elle le reste d'abord, et son président actuel a mis les pieds dans les plats. Il a une particularité, c'est qu'il parle extrêmement clair et extrêmement franchement à ses compatriotes. Il a dit que sommes-nous ? Nous sommes un pays qui vit de l'exportation de ses matières premières, comme un pays du tiers-monde. C'est déjà un problème identitaire. C'est-à-dire un pays qui vit de ça, ce n'est pas possible. Elle ne sait pas exactement si elle doit construire, pousser. Là, il y a une démocratie russe, mais qui est inachevée, c'est certain. Faut-il la pousser dans le sens que signale Poutine, c'est-à-dire avec une part, je dirais, de la tradition de pouvoir russe, etc. Après tout, il y a des démocraties qui ont tout de même des colorations différentes à travers le monde. Ou bien faut-il, ce qui est l'idée de Medvedev, construire une démocratie qui ressemble à toutes les autres. Donc, si vous voulez, ça pose le problème. Ou c'est un pays qui a une identité semblable à toutes les autres, qui n'a pas une particularité au nom de laquelle il peut revendiquer, je dirais, d'inclure des traits nationaux, des traditions nationales dans sa démocratie. Ou bien c'est un pays qui a tout de même, par sa puissance, par son histoire, un statut particulier. Je dirais qu'il y a nettement deux versions. La version Poutine, qui est une version un peu plus russo-centrée, et la version Medvedev, qui est une tradition plus ouverte sur le monde. C'est un problème de génération, une fois encore.
C'est un problème de génération, mais vous le disiez tout à l'heure.
Génération politique.
Medvedev est plus jeune. N'est-ce pas la vision de Medvedev qui va...
Je n'irai pas faire la voyante, mais je vais vous dire quelque chose. Ces deux hommes entendent tous les deux se présenter à l'élection présidentielle dans 2 ans. On ne sait pas comment ça se passera. Ils disent qu'ils ne se présenteront pas l'un contre l'autre, qu'ils trouveront d'abord, un peu comme les primaires qu'on fait dans beaucoup de sociétés occidentales. Néanmoins, je dirais que les clientèles électorales pèseront. La clientèle électorale de Medvedev, ce sont les gens de moins de 40 ans, c'est-à-dire une génération qui a grandi avec l'Internet, qui a grandi avec, dans un monde ouvert où on voyage par son ordinateur dans le monde entier, on n'est plus tellement citoyen de son pays. Et Vladimir Poutine a une clientèle qui est principalement celle des générations qui vont jusqu'à 40 ans, c'est-à-dire ceux qui ont été élevés dans le système soviétique, ceux qui ont une vision moins technicienne, moins informatisée et plus ancrée dans les réalités du pays. Et ça, ce n'est pas une plaisanterie. La différence de clientèle électorale va certainement peser très lourdement sur les choix à venir.
Eh bien, merci beaucoup Hélène Karanenkos d'être venue à ce micro pour nous présenter donc la Russie entre deux mondes, parue chez Fayard. Je signale aussi donc la Russie d'aujourd'hui, qui est un supplément donc du Figaro. Le prochain numéro sortira le 16 juin prochain et j'ai reçu du groupe Aérion Diplomatie Magazine, qui est consacré, le numéro 44, qui est consacré à la population mondiale, à la démographie, la bombe humaine. Diplomatie Magazine numéro 44. Vous évoquez la démographie et l'intérêt en cause dans votre ouvrage également. Merci.
Merci beaucoup de m'avoir convié.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'éclairage.